Nous vivons dans une période d'intersection dans l'histoire. C'est vrai que le monde souffre et le monde est malade. Et les cultures, les valeurs, la foi sont chamboulées, sont remis en question. Et le monde a plus que jamais besoin d'entendre le message du salut en Jésus. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que le changement est nécessaire. Et que quelque chose doit changer. Et que nous, qui avons vécu justement le changement, la repentance, qui avons mis notre foi dans le Seigneur, qui sommes en paix avec Dieu. Notre mission, c'est d'annoncer le message de la repentance, de la foi en Jésus, à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les ethnies. Et parmi eux, on compte aussi les musulmans. Je crois que ce changement qui est nécessaire est au cœur justement de ce que cela signifie d'être chrétien. Et quand on y pense, toute la vie justement commence lorsque nous réalisons que quelque chose doit changer. Le message initial de Jean-Baptiste, de Jésus, de Pierre, est un commandement à se repentir, un commandement à changer. Repentez-vous, ils ont proclamé. Changez de vie, changez de pensée, de cœur. Et c'est vrai qu'il est impossible de devenir chrétien sans repentance, d'être chrétien sans changement. Luc 24, verset 47 dit « La repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Voilà ce que Jésus a dit. Acte 2, verset 38, Pierre leur dit aux auditeurs qui étaient constitués de juifs issus de toutes les nations, tous les peuples. Il leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 11, verset 18 dit « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Et on fait partie de ces gens-là, de ces païens, qui ont vécu la repentance et reçu la vie éternelle. Acte 17, verset 30, il est dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, à Mulhouse, en Alsace, au Maroc, qu'ils aient à se repentir. » Acte 20, verset 21, nous lisons « Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en personne d'autre. Et pour terminer, Marc 6, verset 12, il est dit, ils partirent, donc les disciples, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Et c'est ce que nous avons fait un petit peu, nous aussi. Nous sommes partis au Maroc pour prêcher la repentance. Et vous ici aussi, vous êtes appelés à partir et à prêcher la repentance. Donc oui, nous sommes continuellement transformés, de plus en plus, à l'image de Jésus. Pour penser comme lui, se sentir comme lui, vivre davantage comme Jésus, aimer davantage comme Jésus. Et c'est ce que signifie être un disciple de Jésus. Et c'est ce que signifie justement faire des disciples. C'est ce à quoi nous avons tous été appelés. Nous avons été appelés à inviter les gens à se repentir, à se détourner de leurs péchés, à mettre leur foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur. Et quand on y pense, on réalise que c'est le plus grand besoin auquel notre humanité fait face aujourd'hui. Oh, le monde est chamboulé. Avec cette pandémie On ne sait plus où tourner de la tête. Mais oui, le message de l'Évangile, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'a besoin l'humanité. C'est ce qu'a besoin nous, d'entendre nos proches, nos amis, notre prochain. C'est une réalité à laquelle chaque personne fait face, chaque personne dans le monde entier, quelle que soit sa nation, son pays, sa tribu, quelle que soit sa langue, sa couleur de la peau, quelle que soit sa famille. Ils ont tous besoin de changer et d'être changés, d'être sauvés. Que ce soit l'homme pauvre ou l'homme riche, que ce soit l'enfant qui se bat pour survivre, que ce soit l'enfant qui a plein de privilèges. Tout le monde, justement dans le monde, hein, est un pécheur qui a besoin d'être changé pour toujours par l'amour de Jésus qui a été manifesté à la croix. Et le changement est nécessaire dans la vie de chaque pécheur, dans un monde qui est plein de péchés, marqué par le péché et de tous ses effets. Nous devons aussi venir en aide aux gens qui rencontrent des difficultés liées à la maladie, à la pauvreté, liées aux conflits de guerre, aux catastrophes naturelles, aux pandémies. Bref, les hommes et les femmes ont besoin d'entendre l'Évangile avant de mourir. Et pour qu'un tel changement se produise dans le monde, il y a un changement qui doit se produire en nous, en moi, en chacun de nous. Parce que le changement, il est nécessaire. Bien sûr, il ne s'agit pas simplement de dire que le changement est nécessaire, mais que le changement est possible. Donc quelque chose doit changer, quelque chose justement peut changer. Et Dieu soit loué pour cela. Dieu soit loué. Que quelque chose peut changer. Dans nos vies, en tant que chrétiens, n'êtes-vous pas content de savoir que quelque chose a changé dans vos vies? Que le changement est possible? N'êtes-vous pas content d'être passé d'un pécheur séparé de Dieu à un enfant de Dieu? Un fils, une fille de Dieu? N'êtes-vous pas heureux que le changement ait été possible? Et que le changement se soit produit. Ah, je remercie le Seigneur chaque jour pour sa grâce de le connaître. Et nous qui avons justement été changés pour l'éternité, nous savons que le changement est possible. Le problème, c'est que parfois, dans nos milieux, c'est que nous ne croyons pas toujours que le changement est possible. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent les besoins dans le monde, et spécialement dans le monde musulman, ils se demandent si ça peut vraiment changer. Des centaines de millions vivent dans la pauvreté. 1,5 milliard de musulmans vivent sans l'Évangile. Et on se demande, c'est vrai, si ça peut vraiment changer. Et à un niveau plus personnel, on se demande si on peut apporter un changement dans ce monde qui est en souffrance. Que puis-je faire pour que les gens viennent à Christ ? Pour que les musulmans viennent à Christ, ici, dans cette ville, dans ce pays, mais aussi dans le monde musulman. Que puis-je faire pour des milliards de personnes dans le monde qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, de la bonne nouvelle? Et pour vous qui vivez ici, vous travaillez, vous essayez de gagner votre vie, de bâtir une famille. Vous dites, j'ai un travail, j'ai des enfants, ou je suis étudiant. Que puis-je faire? Que puis-je vraiment faire? Le danger, c'est de tomber parfois dans un fatalisme, de penser qu'on ne peut rien faire contre la pauvreté, contre la souffrance dans le monde, contre le besoin d'annoncer la parole de Dieu. Qu'on ne peut rien faire pour les gens dans le monde afin qu'ils connaissent une vie meilleure ici-bas. Mais plus encore, qu'ils connaissent celui qui peut les faire passer de la mort à la vie. À la vie éternelle. Parce que le changement est possible dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Nous voulons parler justement de la mission de l'Église. Nous parlons de notre rôle en tant que témoins, là où nous vivons, mais aussi d'aller dans le monde entier et dans différents contextes qui peuvent parfois, c'est vrai, être hostiles à notre message. Et nous vivons dans un pays qui est hostile à notre message. La tendance et la tentation est que si nous regardons parfois à l'histoire de l'Église, à l'histoire de la mission, elle peut, c'est vrai, parfois nous décourager. Et décourager beaucoup de personnes et les pousser parfois même à diluer un peu les messages que nous devons délivrer pour éviter la souffrance, pour éviter la persécution. Mais ce n'est pas notre rôle de déterminer quel est le message. Il nous a déjà été donné. Nous ne pouvons pas le modifier. Nous ne pouvons pas le changer. Et notre mission, c'est de le rendre compréhensible dans toutes sortes de contextes, de cultures et de langues différentes. Et quel est notre message ? Qui, bien sûr, peut nous faire rencontrer de l'opposition, de la persécution. Notre message est un élément qui n'est pas négociable. La réponse, nous la trouvons dans Jean, Jean 8, verset 24, lorsque Jésus dit aux pharisiens, et il le dit à notre population qui nous entoure, à ceux qui se disent athées, à ceux qui se disent peut-être hindous, bouddhistes, mais aussi aux musulmans. Jésus leur dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, en effet, si vous ne croyez pas que moi je suis l'envoyé du Seigneur, que je suis le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et nous ne pouvons pas justement aller dans le monde et leur présenter un Jésus qui, en quelque sorte, correspond à leur croyance. Une sorte de syncrétisme, c'est quelque chose d'extrêmement attrayant pour les gens de nos jours. Et pour un certain nombre de chrétiens qui estiment que l'amour de Dieu est tellement grand, qu'il est inutile de croire ou d'annoncer le salut en Jésus. Parce que Dieu est tellement bon qu'il sauvera tout le monde, quelle que soit leur foi. Alors que nous savons que le salut est en Jésus seul. Le salut est en Jésus seul. Croire en Jésus n'est pas nécessairement un problème pour certains. Et personne ne peut nier que Jésus ait existé. Mais le recevoir comme le Sauveur et le Seigneur, cela est un peu plus compliqué. Croire qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui, est quelque chose parfois d'inconcevable pour certains. D'intolérant, une folie, un scandale. Et pourtant, nous savons que ni Marie, ni même les apôtres, ni Bouddha ou Krishna, ni aucune philosophie, ni même Mohammed, le prophète de l'islam, ne peut sauver l'être humain de son péché. Et notre message est celui de Jean-Baptiste, qui a dit concernant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici notre message. Notre message est celui que le Seigneur a proclamé dans Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous lisons dans Luc, chapitre 13. « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Notre message est celui que Pierre a proclamé dans Actes 2, verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et je vis dans un pays dont le livre qu'il considère comme parole de Dieu, le Coran, ne possède pas ce message-là, ce message que Jésus dit, « Si vous ne croyez pas que moi je vis, vous mourrez dans vos péchés. » Les musulmans croient en Jésus, et vous l'avez sûrement déjà entendu. Ils vous diront qu'ils sont la deuxième plus grande religion au monde qui enseigne justement d'aimer Jésus. Comment répondez-vous à quelque chose comme ça? Et certainement, le musulman dira que vous ne pouvez pas être un vrai musulman sans croire que Jésus était un grand prophète aimé de Dieu et né d'une vierge. Quelle réponse pouvons-nous leur donner? Quelle réponse doit être donnée? Et la réponse est celle de Jésus. Si vous ne croyez pas que moi, je suis le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc pour moi, c'est très important d'insister là-dessus, de devoir insister sur le fait que, du point de vue chrétien, Dieu a pourvu à ce qui était nécessaire pour que nous soyons en paix avec lui. Et il l'a fait d'une manière remarquable, incroyable. Dans les livres d'histoire, on parle de guerre et de paix. Mais ce que je trouve incroyable, c'est la façon dont j'ai la paix avec Dieu. C'est la façon dont nous avons la paix avec Dieu. Quand je vois mon propre cœur, et je le connais bien, et quand je pense à toutes les bonnes œuvres, à toutes les bonnes œuvres que je ne fais pas, ou à tous les péchés que je commets en pensée et en acte, comment je peux prétendre que j'ai la paix avec Dieu? Quelle sorte d'arrogance pour moi de penser que j'ai la paix avec Dieu, avec le Dieu trois fois saint, le Dieu qui est entouré d'anges et qui proclame « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées ». Et sachant à quel point je suis impur, comment puis-je dire que j'ai la paix? Ça, c'est une terrible chose. C'est un grand problème. Mais la solution, c'est que Dieu a pourvu à une solution extraordinaire. Et je crois que ce que le monde a besoin d'entendre, c'est que justement nous pouvons être en paix avec lui, être en paix avec Dieu. Parce qu'il a pris l'initiative. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont choisi ensemble de réaliser ce salut manifesté à la croix. Ce salut qui nous a été transmis dans l'Évangile. Mon Seigneur et Sauveur, il s'est donné lui-même, volontairement, et sa vie n'a pas été enlevée. Mais il l'a donné volontairement sur la croix pour que mes péchés, vos péchés, puisse lui être imputé. Et que nous puissions, nous, bénéficier de sa justice, de cette justice qu'il a accomplie. Et c'est comme ça, lorsque je me tiens devant ce Dieu trois fois saint, je ne me tiens pas devant Dieu avec les bonnes œuvres que j'ai faites. Parce que je sais que même les bonnes œuvres que je peux accomplir, elles sont souillées par l'égoïsme, souillé par mon ignorance, par l'orgueil. Mais je me tiens plutôt avec la justice d'un autre. Avec la justice parfaite d'un Dieu trois fois saint. Et c'est la seule raison pour laquelle j'ai la paix avec Dieu. C'est la seule raison pour laquelle je peux me tenir en sa présence. Et ce matin, mon plus grand désir, c'est justement que chaque personne sur cette planète, dans ce pays, y compris chaque musulman que vous connaissez, que nous connaissons, puisse connaître la paix avec Dieu. Chaque musulman en France, en Afrique du Nord, dans le monde arabe, en Asie, en Europe, puisse connaître cette paix que nous connaissons. Et pourquoi nous la connaissons? Et nous la connaissons parce que, à cause de notre relation avec Jésus-Christ, nous la connaissons parce que nous nous sommes repentis devant Dieu et nous avons mis notre foi dans le Christ, le Seigneur. Et j'aimerais tellement qu'ils entendent notre cœur, qu'ils sachent que nous les aimons et que notre désir le plus profond pour eux est qu'ils, eux aussi, puissent être en paix avec Dieu, qu'ils puissent la comprendre, la vivre et qu'ils puissent aussi la partager. Nous devons être le peuple qui prie afin que Dieu nous rende zélés pour l'annonce de l'Évangile. Parce que nous avons, c'est vrai, le message dont ils ont désespérément besoin, d'entendre aujourd'hui. Et ils ont désespérément besoin d'une chose, ou plutôt d'une personne. C'est un médiateur qu'ils renient comme étant le Sauveur, le Fils de Dieu, le Christ. Nous devons prier que Dieu nous aide à sortir de notre confort, que Dieu nous rende capables de leur montrer l'amour du Christ à plus d'un milliard de personnes à qui on a donné de faux espoirs. Laissez-moi vous dire, mes amis, que cela ne va pas arriver si nous hébergeons, c'est vrai, dans nos cœurs, parfois un certain rejet ou de la haine, ou de la crainte, ou de la peur. Je vous dis cela parce que je suis parfois inquiet de voir que certains tombent justement dans ce qu'on appelle l'islamophobie. Quand j'entends comment parfois on peut parler des musulmans, et constater que les gens oublient, nous oublions. Moi-même, je peux l'oublier, qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. On oublie que ces gens-là, ce sont des gens vers qui nous avons été appelés à témoigner au sujet de l'évangile de Jésus-Christ. Je peux comprendre qu'il y ait une certaine réticence par rapport à eux. Il suffit de regarder suffisamment de reportages sur les kamikazes, de lire les nouvelles, que l'islam va contrôler le monde. Mais au cas où nous aurions oublié, nous croyons que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. N'oublions pas cela. C'est la promesse que nous avons. Que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ça, c'est par contre quelque chose de très radical. Soyons honnêtes, quand est-ce que c'était la dernière fois que nous avons prié pour avoir une opportunité de témoignage? Pas qu'avec les musulmans, bien sûr, avec les gens qui nous entourent. Quand est-ce que nous avons prié Dieu? Est-ce que j'ai la bonne attitude qui fera de moi quelqu'un que tu pourras utiliser comme porteur d'un message de vie à une personne autour de moi, à un musulman, à une musulmane? Ou suis-je rempli de peur que cela m'empêche de leur donner justement une chance d'entendre l'évangile? Parce que je suppose que cette personne peut-être veut uniquement me faire du mal. Dans l'Église primitive, au début de l'Église, rappelons-nous que les premiers croyants, les apôtres, vers qui sont-ils allés? Vers les Juifs, n'est-ce pas? Est-ce que les Juifs ne leur ont jamais fait de mal? Bien sûr que oui. Est-ce que les croyants ont arrêté de se tourner vers les Juifs, de proclamer l'évangile aux Juifs? Non. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quand on sait qu'il y a plus d'un milliard de personnes, de musulmans, dans le monde. Mes prières pour vous, pour nous, c'est que nous puissions découvrir qu'il y a des gens merveilleux autour de nous. Et que nous soyons touchés justement dans nos cœurs de voir qu'on leur a donné un Jésus qui est vide de sens. Alors bien sûr, il croit en Jésus, mais il est vide de sens. Alors nous essayons tous d'amener nos laïcs à attendre l'évangile, et parfois c'est difficile. Nous sommes dans un contexte où les gens ne veulent même plus savoir rien de Dieu. Par contre, avec un musulman, peut-être que vous aurez l'occasion de parler des choses spirituelles, des choses de Dieu. Que Dieu nous aide à mieux connaître mon prochain musulman, qui est peut-être un de vos voisins, un collègue, peut-être un membre même de votre famille, un beau-fils, une belle-fille, des beaux-parents, je ne sais. Ma femme avait, Estelle, avait des beaux-parents musulmans. Et on a encore aujourd'hui des beaux-frères et belles-sœurs qui sont dans l'islam. Nos enfants ont des oncles, des tantes qui sont musulmans. Donc peut-être que vous aussi. Et nous avons besoin de nous rappeler, de savoir que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de meilleure façon de partager l'Évangile de Jésus que d'avoir un vrai amour dans notre cœur pour ceux à qui on a donné de faux espoirs. Peut-être que le Seigneur a mis sur votre cœur une autre population que les musulmans. Peut-être que vous avez à cœur d'aider vos voisins, les marginaux. Peut-être que vous voulez aider les précieux hindous, entendre l'Évangile, les nombreux bouddhistes aussi, ou tous ceux qui vivent dans l'animisme ou dans le sécularisme, ceux qui veulent vivre sans Dieu. Quel que soit le groupe que nous avons à cœur, nous devons nous poser nettement la question: qu'est-ce qui a influencé le plus ma vision concernant mon voisin? Est-ce le message de l'Évangile de Jésus-Christ qui m'appelle à risquer ma vie pour le faire connaître parmi tous les peuples, toutes les nations et toutes les tribus? Ou les derniers faits divers que nous avons lus dans les journaux ou entendus à la télé? Lequel sur vous, sur nous, a le plus d'impact? Si nous réalisons que nous avons de la peine avec votre prochain, avec les musulmans, ben la solution c'est de prier, de demander au Seigneur de changer notre cœur. Seigneur, ne me laisse pas me conformer à l'image de ce monde. C'est ma prière. S'il y a quelque chose qui nous empêche de témoigner de l'Évangile à une personne, nous devons prier que le Seigneur nous aide à nous débarrasser de tout ce qui nous retient de le faire. Si nous croyons pleinement et fermement dans le message de l'Évangile, si nous croyons qu'il n'y a de salut qu'en Jésus, et je termine en disant, alors notre amour pour notre prochain, il doit nous pousser à partager ce que nous avons de plus précieux dans ce monde, qui est l'Évangile, qui est notre foi. La foi dans le Seigneur, qui par sa mort et sa résurrection, a accompli le salut, notre salut. Afin que quiconque met sa foi en lui, sera sauvé. C'est ma prière pour nous et mon désir le plus cher. Et je vous invite à prier avec moi. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce si grand salut dont tu nous as rendus participants. Merci. Merci parce que tu as accompli, Seigneur, ce qu'il fallait pour que nous puissions vivre la paix, être en paix avec Dieu, avec Dieu notre Père, avec toi notre Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu as permis, après tous ces siècles passés, Seigneur, que nous puissions, nous ici, réunis à la bonne nouvelle, faire partie de ce peuple de Dieu, de ton Église, mais pas que, Seigneur. Ton désir, c'est d'appeler les peuples, les nations, les tribus, Seigneur, à se tourner vers toi, à se repentir, à croire en toi et en ton Fils Jésus-Christ, le Sauveur. Notre Dieu, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être fidèles. Garde-nous, Seigneur, garde-nous de garder ce trésor pour nous-mêmes. Aide-nous. Alors que le monde souffre, Seigneur, alors que le monde passe par tellement de troubles, Seigneur, donne-nous d'être ces messagers de paix, ces porteurs de bonnes nouvelles. Aide-nous, Seigneur, Remplis nos cœurs de zèle. Remplis nos cœurs de ton amour, de ta compassion. Et aide-nous, Seigneur, ouais, à être ces témoins. À être ces témoins parmi nos familles. Et nous savons, Seigneur, que ce n'est pas le milieu le plus facile. À être ces témoins, Seigneur, dans une société qui ne veut plus rien savoir de Dieu, parfois. À être ces témoins parmi ces nombreux musulmans. Et au-delà, Seigneur, à être ces témoins parmi les nations, parmi les peuples. Seigneur, bénis ton Église, conduis-les, Seigneur, que ta grâce soit avec eux, avec chacun, Seigneur, tu connais chacun. Seigneur, viens et, Seigneur, accomplis ton œuvre, bâtis ton Église, glorifie ton nom. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen.
C'est juste,
c'est... Ouais. Donc c'est la petite église qui est née en 2019 et donc voilà, donc je suis content de vous présenter cette photo. Donc c'est une église qui est constituée à la fois de croyants marocains mais aussi de quelques expatriés qui sont là, qui nous accueillent. Donc, quoi dire de plus? Priez pour nous, pensez à nous dans vos prières. Priez pour ces différents croyants, que Dieu les aide à s'enraciner hein, dans sa parole, à grandir dans la foi, à le découvrir de plus en plus. Et priez pour un certain nombre de ces frères pour qui je m'investis afin qu'ils puissent s'engager davantage dans le service et afin qu'eux aussi, à leur tour, ils puissent devenir ses serviteurs et servir son Église et qu'ensemble, nous puissions proclamer son nom, louer le Seigneur dans cette ville de Casablanca. Voilà. Que Dieu vous bénisse.